Et si t'es pas content, man, exprime-toi trop doucement. L'enfer c'est ici, faudra te faire une raison. Tu étais un ange, tu deviendras un démon. Mais à direct, Babylon a never go. J'fais mon truc et sans traque, prends ma musique contre un peu du respect réservé à l'homme.
Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
Vous écoutez RFI, les 13h à Paris, 11h en temps universel. RFI Midi vous est présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. 2h30 ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux sur tous les continents pour faire le tour de l'actualité dans le monde. À la une, cette victoire saluée dans toute l'Europe, celle de Péter Madiar, futur Premier ministre de Hongrie, grand vainqueur des législatives d'hier. On va s'arrêter justement sur les conséquences pour l'Union européenne du départ de Viktor Orban. Édition spéciale dans 5 minutes. Nous irons au Bénin où l'on attend là le résultat de l'élection présidentielle d'hier avec beaucoup d'attentes.
On veut de l'emploi. Il n'y en a pas qu'ils fassent le nécessaire à ce niveau-là. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore bitumés.
On n'a pas l'électricité, les poteaux ne s'allument pas. Nous sommes dans l'obscurité. Ça ne nous donne pas de sécurité.
Nous appellerons notre envoyé spécial à Cotonou, dans Afrique, midi, midi et demi, temps universel. Élection aussi au Pérou hier, une présidentielle tellement désorganisée que le scrutin se poursuit aujourd'hui.
RFI midi.
Au sommaire également la condamnation en France du groupe de construction Lafarge, reconnu coupable tout à l'heure de financement du terrorisme en Syrie. On vous en dit plus dans une demi-heure. Et puis on parlera aussi du pape en visite sur le continent africain. Léon XIV qui insiste ce matin, je n'ai pas peur de l'administration Trump. Déclaration après des mots particulièrement hostiles de la part du président américain. Voilà pour le programme. Bienvenue. Et tout de suite, un point sur l'actualité internationale avec vous, Karine Bellicha.
Bonjour. L'actualité internationale est également dominée par la situation au Moyen-Orient. L'Iran dénonce un acte de piraterie des États-Unis. Téhéran avertit qu'aucun port du Golfe ne sera en sécurité si les siens sont menacés après le nouveau coup de poker de Donald Trump. Après l'échec des négociations à Islamabad, même si le cessez-le-feu se poursuit, le président américain est bien déterminé à son tour à imposer un blocus dans le détroit d'Ormuz pour tous les bateaux arrivant ou quittant l'Iran. Ce blocus doit entrer en vigueur cet après-midi à 14h, temps universel. Au Liban, deuxième terrain principal de la guerre, les attaques se poursuivent. Israël soutient que ce front n'est pas inclus dans le cessez-le-feu. Le ministère libanais de la Santé a annoncé la mort de 4 personnes après une frappe dans le sud du pays. Le Hezbollah pro-iranien affirme lui avoir lancé des roquettes sur le nord de l'État hébreu. Malgré tout, des pourparlers sont toujours prévus demain à Washington. Le pape Léon XIV est arrivé en Algérie pour une visite historique, la première étape d'une tournée de 11 jours en Afrique, et il arrive en pleine polémique. Muriel Paradon, bonjour.
Bonjour.
Léon XIV est critiqué par Donald Trump qui n'a pas apprécié le message anti-guerre très ferme du pape ce week-end et depuis le ton monte.
Oui, le pape ne compte pas se laisser intimider. « Je n'ai pas peur de l'administration Trump », a-t-il déclaré dans l'avion qui l'emmenait à Alger, selon l'agence Reuters, affirmant qu'il continuerait à s'élever haut et fort contre la guerre. Tout a commencé samedi soir lors d'une veillée de prière à la basilique Saint-Pierre de Rome. Le pape a lancé cette virulente critique à l'adresse du président américain, sans pour autant le nommer. Assez de l'idolâtrie du moi et de l'argent, assez des démonstrations de force, assez de guerre. Et ça n'a pas plu à Donald Trump qui a réagi avec le style qui le caractérise. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon, je ne veux pas d'un pape qui critique le président des États-Unis. Il a accompagné son message d'une image générale généré par intelligence artificielle, dans lequel on le voit en toge blanche et rouge, a posé sa main sur le front d'un malade à l'hôpital, entouré de personnes en prière, sur fond de drapeaux américains, de statues de la liberté et d'avions de chasse. Le souverain pontife, qui est américain, a déjà pris des positions claires contre des décisions de l'administration Trump depuis son élection l'an dernier, mais rarement il a été aussi critique.
Muriel Paradon, et le premier geste de Léon XIV en Algérie, le pape a appelé au pardon devant le monument aux martyrs d'Alger, là où sont honorés les morts de la guerre d'indépendance contre la France. En ce lieu, a-t-il dit, rappelons-nous que Dieu souhaite la paix pour toutes les nations. Enfin, un mot du Pérou, le premier tour de la présidentielle se poursuit aujourd'hui, car hier, le scrutin a été perturbé par de graves difficultés logistiques et des accusations de fraude. Des retards dans l'acheminement du matériel électoral ont empêché plus de 60 000 électeurs de voter. La candidate de droite, Keiko Fujimori, est en tête.
Merci Karine Bellicha. Et tout de suite, édition spéciale, nous partons en Hongrie.
Édition spéciale, élections législatives en Hongrie. Anne Cantner.
On va revenir sur ce revirement, ce tournant majeur en Hongrie, la fin de 16 années de pouvoir Orban. Vous avez pu suivre sur notre antenne hier le moment où il est devenu évident que le Premier ministre avait perdu les législatives, qu'il devait passer la main à Péter Madiar, son ancien allié devenu le chef de file de l'opposition. On a parlé ce matin de l'avenir du pays et nous vous proposons maintenant de nous arrêter plus particulièrement sur ce que ce changement veut dire pour l'Europe et pour la Hongrie dans l'Europe. Toujours avec notre équipe à Budapest. Bonjour Andréane Mellard.
Bonjour Anne et bonjour tout le monde. Nous sommes toujours dans la médiathèque de l'Institut français de Budapest. À mes côtés, Cataline Torley, enseignante de français, leader du mouvement Tani Tanek. J'aimerais pouvoir enseigner. Vous êtes l'une des figures de la résistance à la dérive autoritaire qui a imprégné le système éducatif hongrois sous Viktor Orban. Et je précise que vous avez aussi été candidate aux dernières élections européennes.
On va vous entendre toutes les deux. Et puis pour analyser la situation avec nous en studio, Antonella Pogacan, vous êtes chercheuse à Sciences Po Série. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors on va tout de suite prendre le pouls à Budapest. Andréane, vous nous avez raconté la célébration hier soir qui a duré toute une partie de la nuit. Quelle est l'ambiance là ce midi? C'est encore comme un lendemain de fête?
Oui, eh bien, pour tout vous dire, Anne, la vie a repris à Budapest. La rive du Danube où on se trouve est en train toujours d'être nettoyée des quelques traces qui restent de la fête de cette nuit qui a suivi donc la victoire de Péter Madiar. Sacrée fête d'ailleurs, hein, c'est bien simple. Depuis hier soir, tous les Hongrois que nous avons croisés avec l'équipe ont le sourire et presque un rire amusé quand on leur demande s'ils vont bien. Ils semblent tous comme sur un petit nuage, un peu fatigués de cette courte nuit, mais heureux. Cataline Torley, c'est aussi votre ressenti, vous qui avez beaucoup milité, qui vous êtes élevée contre Viktor Orban et contre le Fidesz.
Oui, je suis très très contente, surtout pour pouvoir assister à cette chute, à cette défaite du gouvernement Orban, de l'ère Orban, du régime d'Orban, qui nous a traumatisés, qui nous a blessés profondément. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'attentes par rapport à ce qui va suivre. C'est-à-dire, je ne suis pas sans questions, je ne suis pas sans problème dans ma tête. Je pense qu'il y a énormément de travail devant nous. Et je suis curieuse de voir si le nouveau chef de gouvernement sera capable de se comporter en démocrate, de reconstituer avec la participation de la société civile, des autres gens qui ont peut-être d'autres opinions politiques, une démocratie, de reconstituer le système des freins et des contrepoids. Voilà, donc il y a un travail énorme, il faut toucher à la Constitution, il faut toucher à plein de lois et il faut commencer à reconstruire les grands systèmes comme l'éducation, la santé, les œuvres sociales, la culture, etc. Donc c'est un peu immense ce qui est devant nous.
Un immense chantier qui commence. Cataline Torley, vous aviez vécu, vous, au premier chef, la mainmise de Viktor Orban sur de très nombreux secteurs. Vous en avez cité quelques-uns, notamment l'enseignement. Au-delà de l'éducation, il avait verrouillé, Viktor Orban, vraiment l'ensemble du système. En fait, ça n'a pas suffi, Antonella Pogacan, donc c'est Péter Madiar qui s'est largement imposé hier.
Ensemble, nous avons renversé le régime d'Orban. Ensemble, nous avons libéré la Hongrie. Nous avons récupéré notre pays.
Comment est-ce que vous interprétez ce résultat? Est-ce que c'est une victoire de Péter Madiar ou une défaite de Viktor Orban? Ou les deux?
Je dirais qu'en premier... Oui, au premier plan, c'est d'abord une défaite de Viktor Orban et peut-être quand même aussi une victoire de Péter Madiar. Une défaite de Viktor Orban, puisque maintenant, depuis 16 ans, effectivement, Orban avait verrouillé pas mal le système. Et en même temps, aujourd'hui, on pourrait aussi repenser, puisqu'on croyait ce changement par les urnes impossible. Aujourd'hui, il a eu lieu. Donc, finalement, si on relie évidemment rétrospectivement l'histoire des 16 dernières années, on se rend compte que le système n'était pas complètement verrouillé, même s'il était très verrouillé. Et puis, c'est une victoire aussi de Péter Madiar, clairement, puisque lorsqu'il a commencé de zéro il y a 2 ans, il a réussi à mobiliser, c'est cela qui est merveilleux, une partie de la population qui était sceptique, voire détachée par rapport aux politiques.
Mais c'est la participation est très importante.
Voilà,
là.
On est dans une participation qu'on n'a jamais connue depuis le changement de régime, 78%, énorme pour la Hongrie, et en particulier de la jeunesse. alors que la jeunesse était désimpliquée, désaffectée. Et aujourd'hui, on a vu la jeunesse s'impliquer activement dans cette campagne et pousser quelque part, y compris les aînés, à opérer ce changement.
Une jeunesse qui l'attend beaucoup, hein, on l'a entendu ça dans les rues.
C'est un sentiment réconfortant de voir qu'il y a encore de la démocratie en Hongrie, même si le terrain ne favorisait pas l'opposition. Et je suis fier de la société hongroise qui a opté pour qu'on reste dans l'UE et qu'on continue à incarner les valeurs occidentales et transatlantiques.
Ce soulagement-là qu'on vient d'entendre, on a pu le voir s'exprimer hier soir, il est à la hauteur de ce que vous aviez perçu à Budapest, Andréane ?
Anne, dans les rues de Budapest, hier soir, on pouvait voir évidemment beaucoup de drapeaux hongrois, des drapeaux du TISA, le parti de Péter Madiar, mais aussi quelques drapeaux européens qu'on a pu voir émerger de cette foule compacte. Cataline Torley, il y a un attachement des Hongrois à l'Europe. C'est une des raisons, d'après vous, qui explique cette large défaite de Viktor Orban.
Oui, je pense. La majeure partie de la population hongroise est quand même profondément pro-européenne. Et c'était effrayant de voir comment Orban se comporte au sein de l'Union européenne. Il était d'une certaine manière le cheval de Troie de Poutine au sein de cette Union. Et je pense que malgré toute la propagande qu'ils ont fait pendant des années et des années, la grande partie de la population a gardé ses sentiments favorables par rapport à l'Europe.
Mais pourquoi, d'après vous, en quelques mots, pourquoi est-ce que les Hongrois sont si attachés à l'Europe ?
Je pense que c'est la Hongrie est traditionnellement liée à l'Europe, aux valeurs de l'Europe occidentale, et on ne voulait pas accepter ce détachement par rapport à ces valeurs.
C'est quelque chose donc qui compte pour de nombreux Hongrois, c'est quelque chose qui compte aussi pour les dirigeants européens. On a pu l'entendre ces dernières heures, le soulagement est très clair. De très nombreuses réactions, comme celle par exemple du chancelier allemand. Friedrich Merz qui nous dit, voilà, désormais tout sera plus facile pour la Hongrie et pour l'Ukraine. Il dit aussi son soulagement de voir un résultat si clair, une victoire si nette de Péter Madiar. Le son cloche est à peu près le même partout, en France, en Espagne, en Belgique. On l'a entendu dans de nombreuses voix de dirigeants européens. On l'a entendu aussi chez la députée européenne Nathalie Loiseau qui était sur notre antenne ce matin. Voilà ce qu'elle disait notamment de Péter Madiar.
C'est un conservateur, comme la Hongrie est largement conservatrice sur le plan sociétal. On ne va pas inventer une Hongrie qui n'existe pas et on ne va pas faire de Péter Madiar ce qui n'est pas. Ce n'est pas Gandhi, ce n'est pas Mandela. C'est quelqu'un qui a réussi à prouver aux électeurs hongrois qu'ils avaient le pouvoir. Et certains finissaient par croire que Orban avait rendu son pays tellement illibéral, c'est-à-dire tellement autoritaire, qu'il ne lâcherait jamais le pouvoir. Ce tabou est brisé et ça, c'est le plus important.
Voilà, le regard de Nathalie Loiseau sur cette victoire de Péter Madiar qu'elle connaît puisque lui aussi a occupé des fonctions au sein du Parlement européen. Il a été élu. Ça fait des mois, des années même que Viktor Orban parasite complètement le fonctionnement de l'Union européenne. Est-ce que là, selon vous, Antonella Pogacan, ça signe la fin des tensions avec Bruxelles ?
Oui, je pense qu'une grande partie des tensions avec Bruxelles vont cesser. En même temps, les positions politiques de Péter Madiar, sur certains points, tels que l'immigration ou la migration, et puis l'Ukraine, ne sont pas si différentes que de celles de Viktor Orban. Sur l'Ukraine, évidemment, concernant le prêt de 90 milliards d'euros et tout cela, les choses sont claires et là, il n'y aura pas de discussion.
Ce prêt qui est bloqué par Viktor Orban, qui s'en est servi comme d'un levier.
Voilà. Donc, on peut imaginer qu'il y aura aussi un rapprochement puisque là, ces dernières
vous
semaines.
Vous écoutez HDR, le mix des cultures.
Essayez de vous détendre.
C'est sur le 99.1 FM.
Vous êtes ici chez vous. Non, c'est la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors pour cette troisième émission en Gascogne, j'ai envie de vous présenter un endroit que je voulais découvrir depuis de nombreuses années parce que c'est ce genre d'endroit assez humble finalement, qui ne cherche pas à révolutionner le monde mais qui révolutionne bien l'environnement autour de lui, qui parle d'écologie de manière simple et pas trop dogmatique, plutôt amener les choses calmement, sereinement, scientifiquement. Et donc je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Il s'agit de la maison de la nature et de l'environnement. On est ici en fait à la rencontre, on est dans les Hautes-Pyrénées, mais on n'est pas très loin du Gers, on n'est pas très loin de la Haute-Garonne, dans un secteur très rural. Hein. Il n'y a pas trop de grandes villes à proximité, ce sont plutôt des zones rurales très fortement ancrées dans l'agriculture. L'agriculture intensive, comme partout, hein, bien que c'est un secteur près des Pyrénées encore préservé, avec beaucoup de haies bocagères, d'arbres et d'endroits plutôt agréable. Pour parler de cette maison de la nature et de l'environnement, je vous propose de rencontrer Héloïse Chanfray. Bonjour Héloïse.
Bonjour Nicolas.
Alors toi ici, tu t'occupes de la com, tout simplement.
Oui, je m'occupe de la communication, mais également de l'organisation des événements et de l'organisation des séjours éducatifs avec les jeunes que l'on reçoit.
Alors cette maison de la nature et de l'environnement, si elle se retrouve ici, c'est pas vraiment un hasard.
Alors, la Maison de la Nature a 30 ans. On a fêté ses 30 ans l'année dernière. Elle avait été pensée en raison du lac de Puy-Darieux, effectivement, en 95. Il y a eu l'idée de faire un projet autour du lac de Puy-Darieux. La mairie avait un bâtiment qui est maintenant la Maison de la Nature.
Une jolie maison de maître au calme.
Tout à fait.
Ancienne.
Une belle bâtisse bigourdane. Et donc, ce projet de faire cette maison de la nature est lié donc au lac de Puy-Darieux. À la base, c'était plutôt sur les oiseaux. Et puis petit à petit, cette maison de la nature a diversifié ses activités. Et donc aujourd'hui, c'est une association d'éducation à l'environnement avec différentes missions.
Alors ce lac de Puy-Darieux, il faut en parler parce que c'est pas tout à fait un lac comme les autres. C'est en ça aussi que je trouve que j'avais envie de venir voir tout ça. C'est qu'en fait, on est sur un lac qui a été construit par l'homme. C'est un de ces nombreux et très nombreux lacs en Gascogne, justement, qui retient de l'eau en hiver, en général, pour la rendre en été pour les cultures. Donc ce sont ces fameux lacs des lacs d'irrigation qui sont parfois assez malmenés dans la presse, mais qui ici a amené de la biodiversité. Il a été construit quand, ce lac ?
Alors, je crois que le lac a été construit en 87, effectivement, pour irriguer les cultures. C'était un projet de lac d'irrigation. Et puis, un hiver, ce lac était bas. Et en fait, comme le lac était bas, des oiseaux donc migratoires, notamment les grues, sont venus s'y poser. Et l'idée est venue de là, en fait, de faire en sorte que le niveau du lac en hiver soit bas pour permettre aux oiseaux de venir s'y poser.
Ça a créé à la fois de la biodiversité, finalement, en amenant une nouvelle faune et une possibilité de développement pour ce secteur rural vers l'animation, vers faire découvrir l'endroit autrement, une espèce de petite valeur touristique.
Voilà, où on parlera peut-être plus d'une valeur naturelle, quelque chose, en tout cas un site où plusieurs enjeux sont mêlés. Et effectivement, l'enjeu de la biodiversité est un enjeu fort autour de ce lac. Et le fait d'avoir une gestion de l'eau un peu différente fait en sorte qu'aujourd'hui encore, on a des grues qui viennent chaque hiver.
Donc c'est un lac qui a réussi à la fois à contenter les agriculteurs qui ont besoin d'arroser en été, parce qu'ici les étés sont